Chapitre 37. Elle sortit du presbytère suffoquée et elle revint à Rudemont au galop. Elle avait besoin d'un mouvement violent pour la secouer et l'arracher aux impressions qui l'oppressaient. En ces derniers temps, elle s'était trouvée engagée dans des difficultés sérieuses, la lutte avec Louis, l'abandon du marquis. Mais elle ne s'était point troublée, surtout elle ne s'était point inquiétée, certaine qu'elle était d'en sortir à son avantage. Dans ce presbytère, au contraire, le trouble s'était emparé de son esprit, l'inquiétude avait amolli son âme, elle avait eu peur. Devant ce prêtre au regard perçant, au crâne fuyant, aux lèvres minces qui découvraient des dents pointues, aux épaules voûtées par la fatigue, au sang enfiévré par la lutte, elle n'avait plus trouvé en elle l'assurance habituelle qui faisait sa force, et alors bien vite, elle avait perdu la confiance dans sa supériorité. Il était son maître. Comme il l'avait regardé, et comme, avec une sagacité pénétrante, il avait su découvrir la vérité. Maître de ce secret, comme il l'avait hardiment exploité. On avait besoin de lui, il voulait bien se donner, mais en échange, il exigeait la part du lion. Il n'y avait pas à marchander, il connaissait le prix des services qu'il pouvait rendre. Pas un mot inutile dans toutes ses paroles. Même quand il avait paru prendre des détours, il marchait droit à son but. Ses conditions posées, d'une part ses exigences nettement formulées, d'autre part les avantages qu'offrait son alliance, exposés avec clarté, il n'avait pas permis la discussion, c'était à prendre ou à laisser. Ah, c'était vraiment un homme. Et, tout en galopant, les yeux fixés devant elle, sur la route poudreuse que sa jument dévorait, elle le revoyait, accroupi dans son fauteuil, ramassé sur lui-même, la tête haute, les yeux brillants, ramenant sans cesse en avant, par un geste machinal, les plis de sa soutane, comme s'il voulait s'envelopper dedans pour se défendre. Évidemment, dans cet homme, il n'y avait plus qu'une partie active, cette tête pleine de force, posée sur ce corps débile, et dans cette tête, il n'y avait plus qu'un organe, celui de l'ambition, qui, en se développant d'une façon exagérée, avait atrophié tous ceux qui ne pouvaient pas lui servir d'instrument. Chez lui, la vie avait été concentrée sur un seul but. Tout ce qui ne concourait pas à la poursuite de ce but avait été de parti pris, éliminé et par suite fatalement anéanti. Comment agir sur cet homme ? Elle arriva à Rudemont sans avoir trouvé une réponse à cette question, car la seule qui se présenta à son esprit était précisément celle qu'elle ne voulait pas admettre, jamais elle ne céderait à sa demande. Le marquis n'étant pas encore rentré de sa promenade, elle eut le temps de quitter son costume de cheval avant son retour. Mais, en traversant les appartements qui conduisaient à sa chambre à coucher, elle s'affermit de plus en plus dans sa résolution. Comment ? Il faudrait abandonner tout cela à ce prêtre ? Ce salon deviendrait parloir, cette salle à manger réfectoire ? Non, non, mille fois non, elle renoncerait à son projet, et puisque le curé d'Annebault voulait tout ou rien, il serait satisfait, il n'aurait rien. Lorsqu'elle entendit la voiture rouler sur le gravier de l'esplanade, elle courut au perron pour recevoir le marquis. Elle avait pris un air dolent, et en descendant les marches, elle semblait pouvoir à peine se soutenir. Impatiente était sa curiosité d'apprendre ce qui s'était dit entre eux. Mais elle ne put pas la satisfaire avant le soir, car le marquis ne lui laissa pas une seconde de liberté. « Ne me quittez pas, » dit-il quand elle voulut sortir. « Nous n'avons été que trop longtemps séparés aujourd'hui. » « Ce n'est pas ma faute si j'étais souffrante. Je ne me plains pas souvent. » « Je ne vous fais pas de reproches, seulement j'ai eu à subir la conversation du cousin Artem, et cela m'a été rude. »« Il vous a dit quelque chose de désagréable ?»« Il m'a ennuyé, blessé, et ce qui m'a le plus vivement contrarié, c'est qu'il semblait prendre à tâche d'insister sur un sujet qu'il savait m'être pénible. » Ce fut tout ce qu'elle en put obtenir. Mais le soir, M. de Carquebute lui donna, avec sa brutalité ordinaire, toutes les explications qu'elle pouvait désirer. C'était vraiment bien la peine de m'imposer l'ennui de cette sotte promenade avec votre marquis. À côté de l'ennui, il y avait un avantage qui n'était pas à dédaigner.
Lequel, puisqu'Arthur a fait son testament.
Son testament ?
Il m'a dit qu'il l'avait fait.
La stupéfaction de Clémence fut si profonde, son étonnement se traduisit par son exclamation avec une franchise si éclatante que M. de Carquebute comprit qu'elle ignorait l'existence de ce testament.
Quand Arthur m'a dit qu'il avait fait son testament, continua-t-il, j'ai cru que vous vous étiez moqué de moi, et je vous avoue que, si j'avais pu vous rejoindre en ce moment, je vous aurais tordu le cou. Mais j'ai vu bientôt que vous n'étiez que ce que je suis moi-même, une dupe.
Oui, ma chère, il a fait son testament.
Est-ce croyable, un podagre comme lui ?
Je l'ai toujours dit, défiez-vous des gens gras, ils sont capables de toutes les lâchetés.
Mais quand ce testament a-t-il été fait ?
Interrompit Clémence, se souciant peu des aphorismes de M. de Carquebute.
Quand ? Tout est là.
Avant votre départ pour l'Angleterre.
C'est impossible.
Ce qui n'empêche pas que cela soit. Une fois en voiture avec notre marquis, j'aborde franchement la question parce que je n'aime pas les affaires qui traînent. Bien entendu, je ne dis pas à Arthur « il faut faire votre testament », mais je lui dis que je veux faire le mien afin de l'instituer mon légataire universel. Ce que je fais pour lui, de son côté, il peut bien le faire pour moi.
À cela, que répondit-il ?
Des niaiseries, qu'il n'aime pas à parler de ces sortes de choses, que je fasse mon testament comme je voudrais, que ça ne le regarde pas. Que cependant, s'il a un conseil à me donner, c'est de laisser ma fortune à qui en a besoin, tandis que lui n'en saurait que faire. Je ne me laisse pas démonter, j'insiste. Il fallait voir sa mine. Quand tout est bien convenu pour mon testament, je l'empoigne pour le sien et je lui explique qu'il fera bien de suivre mon exemple. Sans doute, il est plus jeune que moi, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Il faut penser aux autres. Je le tourne et le retourne si bien qu'à la fin, exaspéré, il me dit qu'il a fait son testament. Là-dessus, vous pensez si je pousse les hauts cris et de bonne foi encore. Arthur, qui n'est pas complètement imbécile, veut me rassurer. Et il me dit qu'il ne m'a pas oublié dans ce testament.
Pas oublié. Ce n'est donc pas à mon profit que le testament est fait. C'est au profit d'un autre et je n'y figure que pour un legs. Il y a des gens qui m'accusent d'être violent. Eh bien, je n'ai pas étranglé Arthur.
Ce n'était pas le moment.
C'est ce que je me suis dit, trop tard ou trop tôt.
Alors j'ai tâché de me calmer un peu et j'ai repris la question du testament. Là-dessus, c'est Arthur qui s'est emporté. Jamais depuis son retour, je ne l'avais vu dans un tel état de colère. Il m'a dit que je voulais le tuer. Nous avons crié, nous nous sommes fâchés, mais enfin, j'ai à peu près su ce que je voulais savoir.
Il vous a dit le nom de ses légataires ?
Ça non, mais qu'est-ce que ça me faisait, puisque j'avais la preuve que ce n'était pas moi.
Alors, qu'avez-vous su ?
J'ai su qu'il avait fait ce testament le jour qu'il a quitté Rudemont avec vous et qu'il avait déposé dans l'étude de M. Pennel à Condé. Vous me direz que ce n'est pas là une révélation bien importante.
Peut-être.
Pour moi, cependant, c'en est une qui a sa signification. Au moins, je sais que vous ne m'avez pas mis dedans et que vous ne connaissiez pas l'existence de ce testament. Fait le jour de votre départ, il n'est pas à votre profit.
Ah, certes non.
J'ai été bien aise d'apprendre ça, d'abord parce que vous n'avez pas plus de malice que moi, et puis parce que ça nous permet de rester associés. Puisqu'Arthur a fait un testament, il en fera bien un second. Il faut que vous lui fassiez détruire le premier et que vous le remplaciez par un nouveau à mon profit, c'est-à-dire au nôtre, puisque ce qui est à moi est à vous, comme cela doit être d'ailleurs entre mari et femme. Et M. de Carquebute se fit aussi doux, aussi humble qu'il avait été tout d'abord dur et brutal. Si sa petite déesse l'avait permis, il se serait volontiers mis à ses genoux pour la supplier de venir à son secours. Impatientée, elle lui fit, pour se débarrasser de ses supplications, toutes les promesses qu'il voulut.
Véritablement, la situation était étrange. D'un côté, l'abbé Guillemite, de l'autre, M. de Carquebus, tous deux voulant le testament à leur profit et la chargeant de l'obtenir. Et elle, que devenaient ses intérêts entre ces deux rivalités? Que devenait son testament? Heureusement, elle tenait entre ses mains les fils qu'il fallait mettre en jeu. Ah, les bonnes âmes qui se figuraient qu'elle allait travailler en leur faveur!